Voilà, nous arrivons à notre dernier cours. J'ai déjà résumé le cours. Donc vous aurez les 12 feuilles, elles sont là, et même un titre. Ceux et celles qui désirent le CD, il faudra encore attendre un petit peu. On ne l'envoie pas par la poste et vous pourrez le trouver à l'accueil. Vous êtes inscrit, si vous le désirez, chez Anne Soubi. Je compte faire les examens le 18, c'est-à-dire dans 15 jours. S'il y en a que ça n'arrangerait pas, mettez alors un papier dans mon casier et on verra quand le faire, si vous désirez. Si vous remettez un papier écrit, vous pouvez aussi le remettre, mais j'aime quand même avoir un petit entretien. Donc le 18, c'est à l'heure du cours, à partir de 8h30 ou 9h moins 20 en tout cas, je serai à la disposition et je mettrai un papier pour que l'on s'inscrive. Voilà. Nous avons affaire, en guise de conclusion, un petit bilan du prophétisme. Vous savez que je n'aime pas beaucoup le terme de prophétisme, parce que les ismes sont souvent des institutions. En Israël, il y a la royauté qui a été une institution et qui a montré que quand on prenait le pouvoir, finalement, tout s'achevait dans le fiasco. Donc la prise de pouvoir n'est pas une chose importante. Au contraire, elle est plutôt mauvaise. Il y a également le sacerdoce. Le sacerdoce est aussi une institution. Mais là aussi, quand le sacerdoce prend le pouvoir, ça ne va pas. Et on voit bien aussi que en Israël, finalement, le sacerdoce est tombé à rien parce que on avait mis le sacerdoce dans les réalités extérieures, c'est-à-dire dans les rites. Et le rite a péri en même temps que le temple de Jérusalem. Il ne faut pas s'attacher à des temples faits de main d'homme. C'est ce que disait d'ailleurs Jésus au chapitre 2e de l'évangile de Jean. Détruisez ce temple et en 3 jours j'en relèverai un qui ne sera pas fait de main d'homme. Il parlait du temple de son corps. Le véritable temple, c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme, personne, mais de l'homme aussi collectivité. Donc le véritable temple, c'est la solidarité entre les hommes, solidarité à recevoir de Dieu. Dieu qui est en lui-même, solidarité, ou nous dirons plutôt, nous, communion. C'était la fête de la Trinité, la fête de la communion. Dieu est vraiment communion. Il est échange, il n'est pas solitaire. Il y a une solitude qui est isolation, isolement. Ce n'est pas le type de l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu est communiante, déjà dans l'Ancien Testament, puisque l'unicité de Dieu se fait alliance avec l'humanité. Alors, je suis aux dernières pages du syllabus, et nous avons déjà vu que c'était déjà un premier bilan du prophétisme. La prophétie s'estompe. La prophétie s'efface. La prophétie n'est pas pouvoir. Elle est service. Service de l'homme, elle vient quand il faut, et quand il ne faut plus, elle s'efface. Deuxième point, à la page 118, prophétie et Nouveau Testament. Et à ce sujet, nous dirons un certain nombre de choses à partir du Nouveau Testament. Si je prends l'évangile de Matthieu, la prophétie est immédiatement située. En effet, Matthieu commence par nous donner une généalogie de Jésus. Et cette généalogie de Jésus, livre de la Genèse, quand on dit Genèse, c'est la manière dont les choses se sont constituées, sont nées et se sont constituées. Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Christ en hébreu se dit Messie, fils de David, fils d'Abraham. Et ceci fait exactement, vous avez lu, Adam, l'homme. La généalogie de Jésus, c'est la réalité de l'homme. Jésus est venu nous manifester que nous sommes Adam, que nous sommes l'humanité, mais qui vient de Dieu. Et puis alors, ayant dit cela, il va recommencer à partir d'Abraham, donc il fait la généalogie en bref, en quelques mots, il remonte, mais en hébreu, on écrit de droite à gauche. Et ayant fait cela, alors il va développer. Il va développer en trois vagues, en disant que Jésus est fils de David, mais que ce fils de David passe par l'exil. C'est déjà dans la Genèse de Jésus, l'exil fait partie intégrante, c'est-à-dire la perte de tout, fait partie intégrante de la réalité de la vie, pour manifester que nous ne possédons rien, nous avons tout reçu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni, dit Job, quand il est privé de tout. C'est bien de cela qu'il s'agit. La prophétie est gratuité absolue, nous l'avons vu la fois passée. Et pour dire cette gratuité, on nous montre que tout homme fait partie de cette gratuité, parce que ce petit chemin que Matthieu fait à travers la généalogie de l'Ancien Testament, comme nous disons, c'est toute l'humanité qui est embrassée. Et puis, après avoir situé comme cela Jésus, humanité, dans l'humanité, mais embrassant toute cette humanité, alors on va nous situer Jésus, Saint Matthieu va faire cela, en citant justement des prophéties. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la notion que nous appelons accomplissement. Qu'est-ce que c'est qu'un accomplissement? Est-ce que c'est une situation de perfection? Est-ce que c'est une manière de privilégier quelque chose ou une réalité ou une personne? L'accomplissement, un terme très important dans l'Ancien Testament, c'est la prise de conscience de la réalité profonde sous le regard de Dieu. C'est ça, accomplir. L'accomplissement de l'homme, dans la tradition juive, l'accomplissement de l'homme, mais c'est tout homme. Tout homme fait partie de cet accomplissement, c'est-à-dire de la vue de Dieu sur chacun, sur chacune et sur l'humanité entière. L'accomplissement, c'est regarder une réalité à la lumière de Dieu. Et quand nous parlons d'accomplissement, dans le Nouveau Testament, c'est cela. Pour montrer que l'accomplissement est en route dès le départ. L'accomplissement, c'est la création qui se poursuit et qui s'amplifie toujours et qui grandit indéfiniment. Une expansion. Le monde est en expansion, en croissance. La réalité humaine est en expansion, en croissance. Et quand elle est arrivée à bout de force, elle devient. devient. Chacune de nos personnes devient. Et a un devenir qui se situe finalement en Dieu. C'est ça l'accomplissement. Et donc, quand Matthieu veut situer Jésus, eh bien, il va chercher des prophéties. Des prophéties, ça veut dire des signes de croissance. À différents moments de l'existence d'Israël, on a perçu, comme dans un flash, on a perçu que la croissance était en route. Alors, pour dire Jésus, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Non pas que cet oracle... Ben oui, il était écrit, bien sûr. Et quel était cet oracle prophétique du Seigneur ? Voici que la Vierge, la jeune femme, concevra, enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. C'est la prise de conscience que Dieu est avec nous, prise de conscience au milieu de la guerre, à l'époque d'Akaz, que l'homme, à ce moment-là, ne tentait pas de procréer, mais que Dieu donnait la vie. En temps de guerre, on n'aime pas d'avoir beaucoup d'enfants parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et pourtant, la vie est le signe que Dieu est avec nous. La vie de Dieu avec nous, c'est le signe vital de notre croissance. Immanuel. Et voilà. Toute naissance est cet Immanuel. Chaque naissance, c'est-à-dire chaque fois que la vie naît, signifie Dieu avec nous. C'est une présence divine. Alors, pour l'histoire des mages, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement... Et donc, Isaïe avait été cité déjà, première chose. Deuxièmement, on s'enquiert où devait naître le Messie. Parce que le Messie, c'est un moment déterminé, semble-t-il. Dans la tradition juive également, le Messie n'est pas nécessairement une personne. Le Messie peut être un état de choses, une réalité extérieure, une prise de conscience, et on se posait la question... Quand le Messie viendra-t-il ? À l'époque de Jésus, c'est une époque où on se dit, il faut absolument que ça change. Est-ce qu'on attend tout d'un homme ? Est-ce qu'on attend tout d'une institution ? Est-ce qu'on attend tout d'une nation ? Ça, ma question est à résoudre par les hommes. Et nous avons vu que les prophètes disaient toujours que, à partir de la désespérance, de la chute d'Israël et de la ruine de Jérusalem, il fallait tirer l'espérance. Elle était là, elle était présente, mais il fallait la construire. Et donc on a dû reconstruire après l'exil, et on a vu que cette reconstruction restait tellement boiteuse. Eh bien, toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef, un Ephrata, c'était une toute petite bourgade, de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Un chef pasteur. Voilà encore quelque chose d'intéressant. Ici, c'est le prophète Michée, aussi prophète du 8e siècle, qui est amené à la rescousse. C'est-à-dire qu'on découvrait déjà dans cette parole qui mettait Juda, le territoire de Juda, c'est-à-dire Jérusalem et les villages avoisinants, il mettait Juda au centre. Alors que c'est un petit, rien du tout. Donc c'est l'exaltation du petit, du faible, et qui devient pasteur. Et puis, quand on nous parle de Hérode, Et Hérode, qui prend le rôle du pharaon dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire celui qui va être au départ d'un génocide, on va en Égypte. Mais qu'est-ce que c'est que l'Égypte ? L'Égypte, c'est le territoire de l'oppression. Et quel est l'oppresseur à l'époque de Jésus ? L'oppresseur, c'est Hérode. Un roi pervers. Un roi qui tue au lieu d'être signe de vie et de service. Et donc, le Fils de Dieu vient dans l'humanité Égypte, dans l'humanité opprimée d'Égypte. J'ai rappelé mon fils. Ah voilà. Et cette parole d'Osée, d'Égypte, j'ai rappelé mon fils, qui parlait justement de la sortie d'Égypte au moment de l'oppression et du Sinaï, devient maintenant d'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Qui est le fils ? Mais c'est le peuple d'Israël. C'est Jésus-peuple. Jésus-Messie. Jésus-pasteur du peuple. Jésus-peuple. Le Fils de Dieu, c'est Israël. Mais, afin que s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie, cette fois-ci, quand Hérode veut faire périr, il est source de mort au lieu d'être source de vie, une voix dans Rama se fait entendre, pleure et longue plainte, c'est Rachel pleurant ses enfants, Rachel c'est la mère, pleurant ses enfants, et elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Il faut passer justement par cette mort. C'est Rachel pleurant ses enfants. Les enfants de Rachel sont un chemin par lequel le Messie vient. Et finalement, il s'appellera Nazoréen, la dernière expression qu'on ne trouve chez aucun prophète. Voilà l'accomplissement de la prophétie. On ne trouve aucun prophète, mais on peut le tirer de Nazir, puisqu'il vient de Notseret, donc il est le surgeon, la résurrection. Donc c'est une manière de parler de Jésus, alors que Jésus ne parle pas encore, il est infans, il n'a pas de voix. Donc il n'a pas de voix prophétique. Et à ce moment-là, quand il ne sait pas encore faire de discours, il n'y aura qu'en 5 discours chez saint Matthieu, mais c'est Jésus qui les fera. Mais quand il n'y en a pas encore, quand il n'a pas encore de voix, ce sont les prophètes qui sont sa voix. C'est-à-dire, c'est la vie qui naît. Et c'est dans cette vie qu'il faut découvrir les traces de Dieu. Et finalement, dans la théologie, si on peut ainsi parler, la théologie d'Israël aujourd'hui, si vous demandez qui est le Messie, ils vous diront c'est toi. Le Messie, c'est toi. Tu as à devenir Messie. C'est-à-dire que tu as à devenir ce qui est la vie même d'Israël. Le Messie, c'est l'homme rêvé par Dieu. Et cet homme a des millions de facettes. Et chaque personne humaine est une de ces facettes de la présence de Dieu dans l'humanité. Et donc cette idée d'accomplissement est liée à cette réalité de croissance. Et qui est-ce qui grandit ? Ce qui grandit, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est-à-dire comment Dieu assume l'humanité royale. Mais je vous ai déjà dit qu'il y a deux sortes de messianisme. Il y a le messianisme de David, c'est-à-dire le messianisme glorieux, et il y a le messianisme de Joseph, qui est le messianisme souffrant. Et Jésus assume les deux idées de messianisme qui existaient dans le Nouveau Testament à l'époque de Jésus. Ça, c'est la manière dont saint Matthieu, qui est vraiment à la souche du judaïsme, c'est Matthieu qui le voit de cette manière-là, afin que s'accomplit la parole du Seigneur disant. Ça veut dire écoutez la parole du Seigneur qui vous est donnée maintenant. Elle est dans la ligne des prophètes. Quand saint Luc, qui n'est pas juif d'origine, mais païen d'origine, quand saint Luc veut manifester cela, il va en parler d'une autre manière. Il reprendra la généalogie de Jésus. Et il remontera non seulement à Adam, mais fils de Dieu, au baptême de Jésus. Pour lui, le baptême est la chose essentielle parce que c'est une manifestation de Jésus comme fils de Dieu. Mais fils de Dieu qui traverse toute la réalité humaine aussi. Si tu es le fils de Dieu, c'est la question essentielle des tentations. C'est la question essentielle de chacune de notre existence. Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Alors montre-le. Et donc il y a un discernement à opérer pour manifester notre réalité d'enfant bien-aimé de Dieu. Et quand Jésus se présente à Nazareth pour la première fois, et cette statue le commémore justement, avec le texte en hébreu et en grec, il vint à Nazareth, chapitre 4e de saint Luc, vous connaissez bien, il vint à Nazareth où il avait été élevé, Nazareth, Nazir, Surgeon, ça évoque la même réalité. Où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture, ce que faisait un hôte quand il arrivait dans une synagogue. On lui présentait la lecture. Pas la lecture de la Torah, pas la première lecture, celle-là, c'est toujours dans la suite, mais alors on peut choisir un passage d'écriture et on va l'expliciter après, examen d'écriture si vous voulez, et on prend un texte, ici c'est un texte prophétique, généralement la Haftara, après le texte de la Torah, il y a toujours un texte prophétique qui va dans la même ligne qu'on a choisi, pour dire qu'il y a accomplissement. Ce que dit la Torah, on va l'expliciter par les prophètes qui ont parlé, eux, dans l'histoire, à tel ou tel moment. Et que fait Jésus? Eh bien, il prend, on lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit. Il s'agit de la troisième partie du livre d'Isaïe, chapitre 61. Et il choisit justement ce texte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, onction prophétique, onction sacerdotale, onction royale, pas dit. Il m'a consacré par l'onction. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année jubilaire. Voilà que Jésus se met dans le sillage du prophète, comme Jean-Baptiste d'ailleurs. Jean-Baptiste, dont nous avons vu qu'il était la figure d'Élie, c'est-à-dire celui qui annonce le Messie. Élie et Moïse, Ils ont été appelés tous les deux prophètes, parce qu'ils disaient déjà la réalité du Messie, la réalité de Dieu, comme parole. Ça, c'est Moïse. La Torah, c'est la parole de Dieu, la parole qui va réunir le peuple d'Israël. Et Élie, c'est celui qui va consommer, accomplir cette parole et qui va réconcilier, nous avons vu, dans la finale de Malachie. Accomplissement. L'accomplissement, c'est l'ajustement de notre existence à la présence de Dieu à un moment de l'histoire. C'est ça la prophétie. Jésus assume cette réalité de prophète. Il l'assume d'une manière tout à fait particulière, puisqu'il est constamment uni à Dieu. Uni comme fils. Il montre, il vient découvrir à l'homme que chaque homme, chaque femme est fils, fille bien-aimée de Dieu. Et Jean-Baptiste reprend, d'ailleurs il s'efface lui aussi, derrière une parole prophétique. Il n'y a aucun pouvoir, ni de Jean-Baptiste, ni de Jésus. Aucune prise de pouvoir, aucune revendication, il devient. Il faut qu'il croisse, dit Jean-Baptiste, et moi je diminue. Il faut qu'il grandisse. Je vous dis quelques mots à ce sujet. À la page 120, je relève une phrase. Le prophète parlait au nom du Seigneur et non jamais en son propre nom. Ainsi, la parole de Jésus n'est pas la sienne, mais celle du Père qui l'a envoyée. Il le dit en toutes lettres. Il s'engage lui aussi dans cette parole, mais il va plus loin, car il affirme « Amen, Amen, je vous le dis ». Son engagement est l'engagement de Dieu lui-même. Et ça, c'est le prophète, l'engagement de Dieu. Il affirme qu'il est l'accomplissement de l'espérance prophétique. Et il devient, en quelque sorte, son propre prophète par la manière dont il situe son destin dans le dessein du Père, comme fils. Alors, est-ce que l'Église est prophétique? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a un certain passage entre Jésus ou l'Ancien Testament et Jésus à l'orée du Nouveau Testament. Des prophètes du peuple, on va passer au peuple prophète. Vous savez que Moïse disait déjà, ah ben plutôt ciel, hein, que chacun et chacune puisse être prophète. Et Joël disait lui-même aussi, ben oui, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des songes, vos fils et vos filles. Donc le problème, c'est celui du discernement du prophète. C'est pas tout qui dit une parole qui est prophète. C'est celui qui en reçoit la grâce. On ne peut pas s'improviser prophète. On ne peut pas professionnaliser le prophétisme, c'est uniquement don de Dieu. Comment discerner ce don de Dieu? Le prophète ne sait jamais qu'il est prophète. Quand on se dit prophète, probablement qu'on ne l'est pas. Mais le prophète est toujours reconnu par les autres. Il est reconnu dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit la profondeur de ce qu'il fait? Une église du prophète, de prophètes, un peuple de prophètes. Qu'est-ce à dire? À la page 120, bas de la page, la venue du prophète Jésus, loin de tarir le charisme prophétique, le développe et l'universalise. Selon le vœu de Moïse, puisse tout le peuple être prophète, ou la prophétie de Joël, je le cite ici, vos fils et vos filles prophétiseront. À la Pentecôte, Pierre en voit la réalisation et l'on assiste à la multiplication de la prophétie dans les premières églises. Notons que prophétiser, ce n'est pas la même chose qu'être prophète. Il y a des paroles, même des enfants qui prophétisent, mais qui ne sont pas nécessairement prophètes. Ils disent une parole qui leur est donnée, qui les dépasse, mais être prophète, c'est vraiment le recevoir ce charisme, au moins pour un temps. Et on voit bien avec Moïse, avec Jérémie, avec Ézéchiel, ils ne prophétisent pas tout le temps. Ce n'est pas une carrière. Les prophètes chrétiens sont pourtant différents de ceux de l'Ancien Testament, en ce sens qu'ils n'ont pas d'action immédiate sur la vie publique de leur temps. Leur charisme s'exerce d'abord à l'intérieur de la communauté, puisqu'ils s'adressent aux croyants vivant parmi les nations comme témoins du Christ. Alors, je vous recommande ce livre, il est à méditer, un peu difficile par moments, est à méditer, et je vous le cite à la page, la dernière page, la page 12, que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est Walter Vogels, qui est professeur d'exégèse émérite à Ottawa. Lui, c'est un livre que l'on peut vraiment recommander, hein, « Les prophètes », sont édités en coédition avec Lumen Vitae. Et je vous signale aussi, mais ça c'est à la fin de la page 11, il y a une faute dans la deuxième note. Il faut lire Irmtraud Fischer. Des femmes messagères de Dieu, prophètes et prophétesses dans la Bible hébraïque. C'est aussi un livre à lire. De voir justement la signification des femmes comme prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a des analyses extrêmement précises, Irmtraud Fischer est directrice du département de philosophie aux facultés de l'Université de Vienne, et elle a fait donc une trilogie, Les femmes dans la période des patriarches, les femmes dans la période du prophétisme, c'est ici, et puis la femme dans la perspective de la sagesse. Trois livres absolument remarquables qui ont été traduits dans la collection Lire la Bible, vous l'avez ici. Mais dans le petit livre de Walter Vogels, il se demande à un certain moment, à travers tout son livre, il voit bien la multiplicité du concept de prophète. Il essaye de l'expliquer à travers tous les prophètes. Il parle d'une façon beaucoup plus générale, il passe de l'un à l'autre. Et il se demande justement quelle est la chose importante chez le prophète. Et il montre bien que l'essentiel, c'est ce don entier de l'être à la présence de Dieu. Et les critères de la personne sont les suivants, d'après lui. On est envoyé de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de discerner cet envoi. On peut identifier ce désir comme étant un envoi de Dieu. Et donc, il y a souvent une résistance. Et cette résistance que vous voyez chez les prophètes, mais qui suis-je, moi, pour annoncer la parole de Dieu ? Jérémie. Moi, je vis au milieu d'un peuple souillé, dit Isaïe. Et donc, il y a une insistance de Dieu, et il le manifeste, envoyé de Dieu. Deuxièmement, désintéressement. Désintéressement absolu. Et on ne tire aucun profit, au contraire. Et il faut que cette vie personnelle, c'est le troisième critère qu'il donne, cette vie personnelle soit ajustée à la parole. Et donc, l'examen des critères pour discerner les vrais des faux prophètes en montre bien les ambiguïtés. Il n'y a rien de chimiquement pur, ni dans la royauté, ni dans le sacerdoce, ni dans la prophétie. Rien de chimiquement pur. Ces critères doivent avoir une certaine valeur, autrement les prophètes n'auraient pu y avoir recours. Par ailleurs, l'application de chacun d'eux soulève tant de difficultés, d'objections et de réserves qu'en pratique, on n'est pas plus avancé. Les conflits entre prophètes ne se situent d'ailleurs pas seulement sur le plan théologique et idéologique. Des facteurs purement personnels, politiques, économiques et sociaux sont également en cause. Pour la bonne raison que cette présence de Dieu est à mettre dans un contexte tout à fait humain. Et ce n'est pas facile. Et voyez par exemple que, sur le plan politique, Isaïe, le grand Isaïe, la première partie du livre, dit « faut pas se mouiller dans les guerres. Il faut rester tout à fait à l'extérieur. Neutralité absolue. » Et si vous regardez Jérémie dit « mais vous avez fait alliance avec Babylone, alors soyez les sujets de Babylone, payez votre impôt, vos tributs. » Vous voyez, il n'y a pas de valeur absolue. Il y a à chaque moment à voir quelle est l'incidence politique, sociale, économique, financière. Il faut pouvoir le voir. Et le discernement de cela est extrêmement difficile. Une fois qu'un groupe a mis sa confiance dans un prophète, les contradictions même... Les facteurs purement personnels, politiques, économiques et sociaux sont également en cause. Une fois qu'un groupe a mis sa confiance en un prophète, les contradictions même des critères apparemment les plus clairs, comme le défaut d'accomplissement d'une prophétie, l'éloignement de la tradition, les grosses sommes d'argent impliquées ou une vie privée contestable, n'ébranle pas nécessairement sa foi. Le prophète et son groupe de soutien trouveront des excuses ou des interprétations qui les satisfont, même si cela semble inadmissible ou de l'ordre de l'imposture pour ceux du dehors qui n'y verront que lavage de cerveau. Et c'est pourquoi je vous ai mis un petit texte de Walter Vogel qui suit. Alors qu'en est-il ? Au moment de conflit, je lis maintenant la feuille 12, il est plus facile pour une communauté de se débarrasser d'un prophète que de tendre vers l'harmonie. Pourquoi ? Parce que ça demande un gros effort de tendre vers l'harmonie, un effort concret. de réconciliation, d'unité et de solidarité. Il est également plus facile pour le prophète d'adopter une attitude hautaine à l'égard de la communauté et des autorités, de les considérer comme dépassés, fermés et vieux jeu, que d'accepter un cheminement lent mais plus certain. Les rapports entre communauté et prophète sont des rapports de désir et de rejet. On désire avoir un chef, on se donne un chef, et puis quand on voit que c'est onéreux, on le lâche. Désir et rejet. D'amour et de haine. Ce sont des relations délicates et pleines de tensions que peu de communautés, mais aussi peu de prophètes, parviennent à résoudre. Et le succès n'est pas toujours le signe de la vérité de la prophétie. La communauté est humaine et donc imparfaite, mais le prophète est homme de Dieu. Il est aussi humain et limité, car il est le produit de cette même communauté avec laquelle il peut pourtant entrer en conflit. Et vous pouvez regarder n'importe quel prophète, est toujours d'une manière ou d'une autre rejeté. Et Jésus en est aussi le signe vivant. Un peu plus loin, il dit ceci, « Dieu parle aux prophètes, mais il s'adresse aussi à la conscience de chacun. » Ah, ceci est important. Il y a donc une confrontation face à Dieu, d'interpellation et de réponse. Et donc, le prophète désinstalle, bien sûr, il pose des questions, mais c'est à la liberté de chacun d'y répondre. En un certain sens, il y a un prophète en chacun de nous. Il y a une réalité prophétique proche de Dieu en chacune de nos vies. Moïse l'avait souhaité. « Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète !» Vous voyez, nous revenons toujours à des expressions clés. Le Seigneur leur donnant son esprit. Joël l'a promis, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. » Il s'agit d'un peu tout le monde. Même sur des esclaves, « Hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Voilà ce que dit Joël. Cela se réalisa par le don de l'esprit à tous le jour de la Pentecôte. Et justement, dans le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, il y a cette référence à Joël. Il dit c'est ce que Joël avait prédit qui arrive. C'est un autre moment de la même croissance. Chacun doit être à l'écoute des différentes voix prophétiques, sans parti pris, sans peur des conséquences possibles. Mais il doit les discerner selon la voix intérieure de sa conscience. Ce choix comporte un risque, puisqu'il relève du domaine de la foi et non pas de la certitude de critères absolus. Et de nouveau, le prophète, c'est comme la Torah, celui qui met l'homme, la femme, en liberté. La liberté est cette présence du Seigneur en nous et qui nous fait vivre en nous ajustant ce que nous sommes à ce mystère profond que Dieu est dans chaque être humain. Les prophètes sont appelés à une certaine humilité et à faire preuve de respect mutuel. Chacun peut contenir du bon et du moins bon. Un conflit entre prophètes ne représente pas nécessairement un conflit entre un vrai et un faux prophète. Il peut être un conflit entre deux vrais ou entre deux faux prophètes. Il y a souvent plusieurs manières possibles de faire du bien. Et souvent, nous absolutisons d'une manière ou d'une autre. On touche ici à la question difficile de l'unité dans un monde pluraliste. Des conflits trop violents entre prophètes peuvent produire l'indifférence dans la communauté qui prendra alors ses distances. Qui croit qu'il commence par s'entendre? Ce n'est pas faux. Les désaccords risquent de détruire non seulement la communauté, mais le prophétisme lui-même. Et je conclus dans cette page que je vous ai donnée. Bref, la prophétie est une grâce. Une grâce, c'est-à-dire gratuité absolue. Elle peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Mais une grâce onéreuse, une grâce lourde, difficile à réaliser, et qui entraîne des conséquences qui peuvent être très pénibles. Elle rend la personne intérieurement libre, mais lui fait porter une lourde responsabilité. Et c'est souvent de cela que nous avons peur. On le voit bien dans le chef de Jésus lui-même, considéré par beaucoup de ses contemporains comme un prophète, surtout dans l'évangile de Luc, c'est un peu la manière dont saint Luc met en évidence le rôle de Jésus. Ce dernier présente aussi Paul comme prophète, mais prophète persécuté lui aussi. Et son rôle apparaît très nettement dans le récit du naufrage qui aboutit à Malte au cours du voyage vers Rome. Qu'est-ce qui se passe dans ce voyage ? Naufrage. Il se passe que Jésus a été pris, que Paul a été pris en flagrant délit de mettre du désordre dans Jérusalem. Et par qui est-il sauvé ? Il est sauvé par les soldats romains. Les soldats romains qui viennent le prendre alors qu'il va être lynché sur l'esplanade du temple, et on l'emmène dans la forteresse. Et là, il est jugé, ou en tout cas, une enquête a commencé sur ce qu'il a fait par les Romains qui n'ont rien perçu. Ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Et saint Paul l'a marqué et continuera de le marquer constamment. Le point sur lequel il est jugé, c'est parce qu'il affirme la résurrection. Un homme, un certain Jésus, qui est mort et que Paul dit être en vie. Qu'est-ce que c'est que la résurrection ? Et justement, ce qu'est la résurrection, Paul est en train de le vivre. Il est en train de le vivre en le découvrant présent. La résurrection du Seigneur Jésus, il la découvre présent, et chez un centurion, le centurion Corneille, et chez des païens. Et c'est pour ça qu'il est mis en accusation. Et à Jérusalem, on ne s'entend pas, parce qu'il y en a qui croient en la résurrection, les pharisiens, et d'autres, les sadducéens, qui n'y croient pas. Et ça s'est bagarré à Jérusalem. Et on a sorti Paul de Jérusalem, on l'a mis sous la garde des soldats romains. Et puis là, il va revendiquer d'être jugé parce qu'il est citoyen romain, il est juif et citoyen romain, il va revendiquer de pouvoir demander d'être jugé à Rome, c'est-à-dire au tribunal de César. Il fait appel. Et c'est mené par les Romains, et on est embarqué vers Rome. Et ce voyage vers Rome est décrit par Luc vraiment comme une parabole de la réalité de l'Église. Ce bateau comporte des prisonniers, il comporte un certain nombre de voyageurs, il comporte aussi, bien sûr, des marins, ce sont les spécialistes, il comporte des chefs, le commandant du bateau, il comporte des soldats, et vous avez là une image de la société humaine, avec ses différents pouvoirs. Alors, qu'est-ce qui décide ? Évidemment, c'est le chef. Oui, mais le chef, il y en a deux. Il y a le chef militaire, et il y a le commandant du navire, le spécialiste toujours. Et on essaye, on tâtonne, on prend la mer, on ne prend pas la mer, et on voit qu'on a été imprudent. Et là, au milieu de tous, le prophète dit, attention, attention, si vous continuez, si vous prenez la mer, ça va être dangereux pour tout le monde. On va peut-être échouer, on va peut-être avoir un naufrage. Et au moment où c'est vraiment difficile, où on ne voit plus clair, que fait Paul ? Il dit, je vous l'avais bien dit, on va échouer, effectivement. On va échouer. Mais il faut que tous se sauvent ensemble. Il ne faut pas laisser les matelots s'en aller avec la chaloupe. C'est tous ensemble ou pas un seul. Il y a une solidarité dans le salut. Je vous l'avais dit. Mais on va passer par des moments difficiles. On va devoir se sauver à la nage ou sur des morceaux du bateau. Mais tout le monde sera sauvé. Et à ce moment-là, il fait le geste eucharistique. Dieu est présent dans ce que nous vivons et c'est lui qui nous donne à manger. Et c'est justement ce que Luc veut montrer. Que le signe de la résurrection est dans cette paix du prophète qui passe à travers le risque. Et tout, finalement, on arrive à Rome et sain et sauf. Mais Paul aussi est passé par une terrible angoisse intérieure. C'est l'image que le Nouveau Testament donne du prophète. Le critère de la vie personnelle du prophète soulève des difficultés. De quel droit certains prophètes eux-mêmes imparfaits s'en prendraient-ils à la conduite d'autres prophètes pour les traiter d'imposteurs ? Qui est sans péché ? Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, hein ? Dans cette question, la communauté joue un rôle important. Elle trouvera des excuses ou des explications pour la conduite du prophète qu'elle s'est choisie. Alors qu'elle trouvera toujours des accusations contre un prophète qu'elle a rejeté. Le premier pourra tout faire, l'autre ne pourra rien faire. Jean vient en effet, ne mangeant ni ne buvant, et on dit « il est possédé ». Vient le Fils de l'homme mangeant et buvant, et l'on dit « voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs ». C'est ça que j'appelle la véritable mise en liberté. Je crois que vraiment on peut dire que le prophète est un homme libre parce qu'il est constamment libéré par Dieu. Il peut avoir des moments difficiles. Nous avons vu combien Jérémie allait se plaindre constamment à Dieu. Nous avons vu comme certains prophètes, comme Ézéchiel, prenait excuse, pourrions-nous dire, de son autorité sacerdotale. Il était prêtre, ou en tout cas dans la communauté sacerdotale à Jérusalem. Et chaque fois, il se sent appelé comme fils d'homme. Fils d'homme. Et c'est lui qui prophétise la vie du peuple alors qu'il est dispersé. C'est le fameux chapitre 37 de la résurrection des ossements desséchés. Cette résurrection des ossements desséchés n'est pas, est plus exactement une véritable vision, c'est tout à fait sûr. Une vision qui dit que le peuple va rentrer sur sa terre. Mais en même temps, ce qu'il vit au moment de la chute de Jérusalem, c'est la mort de sa femme. C'est aussi cette angoisse de ne pas voir le lendemain. Il prophétise, bien sûr, dans le dernier chapitre, il prophétise cette résurrection du temple d'Israël, mais il la vit dans la mort, cette résurrection. Sa foi lui fait traverser la mort. C'est ce que Jésus a vécu, c'est ce qu'il nous donne à vivre. C'est ainsi que se fait l'accomplissement. Merci. Je vous cite simplement ceci. Ce sont des mots qui viennent de Monseigneur de Kesel. Voici ce que vous êtes. Des laïcs, des baptisés, des chrétiens qui veulent suivre le Christ et vivre l'Évangile de façon radicale. Un peu en marge de la société, là où le désert commence, comme Jean-Baptiste, non pas pour fuir le monde. Si vous quittez le monde, c'est par amour. S'il y a distance, c'est en vue d'une présence. Vous vivez au milieu des hommes, au milieu de la ville, mais autrement. Donc à distance, aussi un peu à distance de l'Église. Là aussi, vous vous rapprochez de Jean-Baptiste. Ne me comprenez pas mal, je ne parle nullement d'une distance critique habituelle aujourd'hui vis-à-vis de l'Église, qui ne souscrirait pas assez aux évidences de notre société. La distance que je vise vient plutôt d'un grand désir d'authenticité et de ressourcement. C'était là le message de Jean-Baptiste.